jeudi.
Miroir de la société. Alena Gebertova.
Le développement urbain à Prague et ailleurs sera le thème de ce programme bimensuel. C'était aussi le sujet dont je me suis entretenue avec l'architecte français Dominique Lyon, qui a participé à la semaine de l'architecture que Prague accueillait la semaine dernière. Quelles sont, d'après Dominique Lyon, les principales menaces urbaines qu'une capitale comme Prague devrait éviter? Écoutons-le.
Je dirais que le principal danger, c'est un manque d'organisation, un niveau politique. Il faut qu'une ville de Prague, de 20 millions d'habitants, il faut qu'une ville sache se doter d'outils d'analyse et de prise de décision urbaine. Et la pire des choses qui puissent arriver à une ville, c'est de manquer de ces outils et de laisser la main à des opérateurs privés qui, voyant qu'il n'y a pas de volonté ni de politique urbaine, font finalement n'importe quoi et arrivent à... parce qu'ils ont l'argent, parce qu'ils ont le temps, parce qu'ils ont des avocats, arrivent à... contrevenir aux règles et faire des opérations qui sont contraires à la culture urbaine. Donc la première chose, je crois, c'est qu'il faut que les municipalités arrivent à peut-être sortir de vieilles habitudes de services d'urbanisme qui sont des services quelquefois qui ronronnent, et arriver à faire, avec la société civile, c'est-à-dire avec des urbanismes privés, avec des architectes privés, des cellules de recherche et de prospective qui arrivent à faire, sur un certain nombre de quartiers, des études qui permettent d'aider à la décision. Mais je crois que les maires, maintenant, doivent s'occuper de manière beaucoup plus directe et de leur développement urbain. Ils doivent acquérir une maîtrise des décisions urbaines. Ils doivent acquérir aussi une culture urbaine qu'ils n'avaient peut-être pas dans les dernières années.
Est-ce que vous avez suivi le débat autour de la Bibliothèque nationale de Jan Kaplicki à Prague?
De loin, j'étais au courant du concours, puisque je construis les bibliothèques. Je crois me souvenir qu'on a fait le choix de ne pas s'y inscrire parce que c'était un concours ouvert. Le choix de Kaplicki n'est pas surprenant puisque c'est un peu l'enfant du pays. Son projet, je ne le connais pas bien. J'ai vu quelques photos et quelques dessins. Voilà, j'ai pas une opinion architecturale sur le bâtiment. Je crois savoir que ça fait un certain nombre de polémiques et qu'on a décidé de changer de... terrain. Mais je ne peux pas m'avancer plus. Je dis que le gros problème là-dedans, c'est un problème de décision du pouvoir politique. Quand on invite Kaplicki et que Kaplicki fait une architecture qui ressemble à du Kaplicki, tout est normal. On ne peut pas demander à Jan Kaplicki de faire une architecture qui contrevienne à son œuvre, à son imaginaire, à la manière dont il envisage son travail. Par contre, je trouve que les hommes politiques devraient assumer un peu plus ou expliquer un peu plus la nature de leur choix, ce qu'ils font de leur choix. Maintenant, on peut débattre pendant des années de savoir si c'est un bon bâtiment, pas un bon bâtiment. On peut débattre de savoir s'il faut une bibliothèque nationale ici ou là. Mais je trouve que soit le concours n'a pas été assez sérieusement organisé, et je trouve dommage de faire des concours de cette nature, c'est-à-dire des concours semi-ouverts ou ouverts pour une bibliothèque nationale. Je trouve qu'il devrait y avoir un jury qui est un jury qui fait autorité, auquel le politique, s'il a des doutes sur la qualité de l'architecture, puisse se référer. Un jury constitué de personnalités qui ont un rayonnement international et une autorité acquise dans le pays, et que le politique écoute les experts. Et là, j'ai l'impression d'un louvoiement qui n'est pas très sérieux, qui est dommageable pour tout le monde, pour l'architecte, pour la population et pour les utilisateurs de la bibliothèque.
En ce qui concerne le développement urbain, pensez-vous qu'il est possible de puiser une leçon dans des erreurs éventuelles qui ont été commises, s'il y en a eu à Paris, à Bruxelles par exemple?
Oui, bien sûr qu'on peut tirer des leçons des erreurs. C'est une vision positive des choses, dire que les erreurs servent à donner des leçons aux générations qui viennent après. On peut évidemment tirer des leçons des erreurs du passé, ce qui ne veut pas dire qu'il faut revenir à un stade de développement ou de conception de la ville qui était antérieur à ces erreurs. Si vous voulez parler des développements des années 60-70, qui sont nos erreurs les plus récentes, mais on a continué à faire des erreurs dans les années 80 et 90, on continue encore à faire des erreurs, je pense que ça pose deux problèmes. D'abord, il y a un problème d'histoire. Il faut reconsidérer l'histoire et voir ce qui constituait véritablement une erreur architecturale et urbaine de l'époque, de construire ces villes sur des théories modernes. Ça a correspondu à quand même un besoin, ça a correspondu à un état de la pensée sur la ville qui était certes peut-être trop radicalement, qui était trop radical sans doute, mais il faut considérer qu'on n'a pas remplacé, on a beaucoup de mal à remplacer ces théories par d'autres idées urbaines qui valent. Ensuite, il faut considérer que ces quartiers-là sont des quartiers qui sont habités. Donc la critique qu'on peut en faire ne doit pas conduire à ostraciser les gens qui habitent et les isoler et leur donner le sentiment qu'ils sont absolument des parias.
Quelles sont les qualités que doit posséder quelqu'un pour devenir un bon architecte ?
Il faut que ça soit quelqu'un qui est un esprit ouvert, qui ne cherche pas... L'architecture est quelque chose d'assez déstabilisant. On prend des responsabilités très grandes pour un très grand temps, pour une très grande période de temps. J'ai l'impression qu'il leur faut une certaine forme de courage. Il faut qu'ils bâtissent des outils intellectuels qui leur permettent d'assumer leurs responsabilités, c'est-à-dire trouver des raisons à leur architecture, développer les moyens intellectuels, la curiosité intellectuelle pour arriver à concevoir les bâtiments. Ensuite, il leur faut évidemment une culture technique, ça va sans dire. Je pense qu'il leur faut de la curiosité. La curiosité, il faut une culture artistique, il faut une culture technique, il faut une culture politique, à mon avis. Donc, on fait un métier de synthèse. Nous sommes finalement des spécialistes en pas grand chose, mais nous avons des vues sur un nombre assez étendu de domaines, des vues et des responsabilités sur un nombre étendu de domaines. Qu'est-ce qu'il faut comme principale qualité ? De la ténacité, du courage, de la ténacité. Mais c'est un métier qui est très divers. On a tendance à croire que le métier de l'architecte ne conduit qu'à la construction. Il peut conduire à l'état d'autres métiers. Il peut conduire d'abord à travailler pour les municipalités, il peut conduire à travailler pour des opérateurs privés, c'est-à-dire faire de la promotion, passer de l'autre côté, faire de la production d'architecture. Il peut devenir journaliste, il peut devenir critique, il peut écrire dans les revues. Donc, un architecte n'est pas seulement celui qui construit, un architecte c'est celui qui s'occupe de la construction.
C'était donc le miroir de la société avec l'architecte français Dominique Lion.